Bonjour, vous êtes bien sur Radio Rôliste, ici Macalys et ce soir nous allons parler du sport en jeu de rôle.
Bonsoir, ici Lamson. Il est difficile de définir le sport. Est-ce que c'est une simple activité physique pour se sentir mieux dans son corps, s'amuser, se distraire? Ou est-ce qu'on a besoin de la notion de compétition pour séparer sport et la simple activité physique? Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps un papier d'ethnologue qui associe sport et compétition, en remarquant que dans les sports modernes, on trouve une organisation sociale originale, avec des fédérations qui définissent les règles, et ces règles, on les veut universelles. Et les compétitions qui suivent ces règles sont aussi souvent des spectacles, avec un fort caractère narratif. Nous y voilà. Il y a des records, des rivalités, des héros et des héroïnes du stade, des supporters, etc. Donc oui, le sport est là pour qu'on se raconte des histoires. Et ça, le cinéma l'a bien compris, de Rasta Rocket à Rocky, de Comme des garçons à Waterboys. Mais la littérature, l'animation, la BD et même la chanson ne sont pas en reste. Et le jeu de rôle dans tout ça.
Pour parler de tout ça, on a avec nous une personne qui a écrit des jeux de rôle qui permettent de raconter toutes ces histoires que le sport suscite, à savoir Gulix, qui a écrit le jeu de rôle Un dernier tour de piste et La coupe du chaos, qui est un playset pour le jeu de rôle Fiasco, et qui est lui-même un grand amateur de sport.
Bonsoir.
Et on a aussi avec nous Mathieu B, un historien amateur du jeu de rôle. J'avais jamais entendu ça sur toi, Mathieu B, mais je suis très curieuse de savoir ce que tu as trouvé dans l'histoire du jeu de rôle sur le sport.
Bonsoir à toutes et à tous. Et non, c'est faux, je dément complètement, je ne suis pas historien du jeu de rôle du tout.
Non, c'est pas de
amateur,
l'histoire du jeu de
rôle. Amateur, on avait dit. Mais bon, de toute façon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur toi, c'est que tu es de toute façon un grand amateur de jeux de rôle, en particulier narratif, et donc... ça peut être du jeu de rôle, du sport, mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas.
Non, du tout, effectivement. J'en ai testé quelques-uns et je suis complètement fan de la proposition du sport dans le jeu de rôle, effectivement. Ouais.
Alors, on commence comment? Est-ce qu'on commence par Gulix qui se présente et qui présente d'où il vient et pourquoi est-ce qu'il a bien voulu écrire des jeux de rôle sur le sport? Ou est-ce qu'on commence par Mathieu B qui nous présenterait... l'histoire du jeu de rôle de sport? On vous laisse décider entre vous et on prend du pop-corn et on assiste au match. Qui commence?
On peut arbitrer.
Au premier sens.
Bah, vas-y.
Ok, ça te va, Nico?
Ouais, très bien.
Oui, puis merci de m'avoir tendu la perche sur l'histoire des jeux de rôle avec le sport. J'ai un petit peu bossé mon sujet avant de vous rejoindre et... voilà ce que j'avais à dire. Alors, quand on parle de jeux de rôle, on imagine bien entendu des elfes, des dragons, des vaisseaux spatiaux, mais un peu moins des terrains de foot et des rings de catch. Et c'est ça qui est intéressant, hein, parce que pendant super longtemps, le sport, c'était un grand absent des jeux de rôle classiques. Dans les années 70-80, et même au début des années 90, on était plutôt sur de la fantasy, de la SF, de l'horreur, et le sport était vraiment pas un sujet abordé frontalement par les jeux de rôle. Alors en 86, on avait bien Blood Bowl, techniquement c'est un jeu de plateau avec des figurines, en gros un wargame, qui est vraiment excellent, mais on n'y incarne pas encore un personnage avec son histoire, ses motivations, tout ce qu'on connaît dans le jeu de rôle. Si on regarde un petit peu l'histoire du sport dans le jeu de rôle, au tout début, c'est des choses très discrètes. Par exemple, il y a un vieux jeu de SF un peu obscur, sorti dans les années 80, qui s'appelle Space Quest RPG, qui n'a rien à voir avec la série de jeux vidéo Space Quest, malheureusement, et qui intégrait des sports futuristes dans ses scénarios. Il utilisait même, j'ai vu ça quelque part, un dé à 30 faces. un peu un ovni.
Est-ce que toi, t'as joué par curiosité à un de ces jeux-là ou pas?
À Space Quest, non. Alors, au début des années 80, mec, il y a dit, j'avais deux ou trois.
Oui, non, mais après, enfin...
À des jeux de sport en général, ouais, carrément, ouais. J'ai joué à Volleyballs notamment, et puis à pas mal de jeux de catch aussi, ouais.
Mais pas forcément des jeux de cette époque-là.
Mais pas les jeux de plateau des années 80.
Ouais, pas du tout, ouais. Non, ouais. Carrément pas. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de trouver des tables de jeux sur ce type de jeu-là. Et je suis pas sûr qu'avec ma culture du jeu de rôle qui est née dans les années 90, je serais prêt à jouer à des jeux de rôle des années 80. Quoi.
Moi, à l'inverse, j'ai connu le fameux Blood Bowl avant de connaître le jeu de rôle. Voilà, j'avais un groupe de joueurs avec qui on faisait beaucoup de jeux de figurines. On a découvert Blood Bowl, on a adoré. Moi, j'ai créé presque un rôle. Hein. Je vivais mes histoires avec ces personnages en figurines, en plomb. Et très vite, en fait, on a voulu poursuivre des aventures dans l'univers de Warhammer et on a découvert Warhammer Fantasy. Et c'est là que j'ai découvert le jeu de rôle.
Parce que Blood Bowl a un rapport avec Warhammer, du coup ?
C'est le même univers. Alors, c'est un D'accord. univers parallèle. C'est-à-dire que ça se passe dans l'univers de Warhammer, mais avec un univers parallèle, puisque... Les races ne se font plus la guerre, à la place, elles se font des matchs de Blood Bowl, qui est une sorte de foot américain rugby encore plus violent.
Mais déjà, on abstrait la guerre. Point important, on en reparlera sûrement après, mais le sport, ça sert aussi à ça.
Ouais, et d'ailleurs, les premières incursions dans le jeu de rôle du sport, ça parle quand même pendant quelques années de violence. Hein. Avec une exception quand même en 83, où on a la pratique du sport dans le jeu de rôle James Bond 007.
Alors, bien entendu, j'ai joué à celui-ci, mais je me souviens plus. Dis-moi, comment est-ce qu'on faisait du sport là-dedans ?
Alors, bien entendu, c'est pas le sport. On va pas jouer à la pétanque et on va pas aller faire du catch, hein, bien sûr. On parle de sport très classique, pratique, un James Bond ou une James Bond, quoi. Donc, ça va être le golf, le ski, le tennis, ce genre de choses, quoi. Il y avait des règles spécifiques pour ça, et puis on pouvait s'en servir pour lancer des scènes, on va dire, avec un caractère plus social, en fait, pendant une mission d'espionnage, si tu vois le genre, un peu.
Ouais.
Un petit avance rapide dans les années 80, fin des années 80, début 90, il y a Shadowrun qui débarque, tout le monde connaît un petit peu, donc c'est l'univers cyberpunk fantasy, dans lequel ils ont intégré des règles de sport futuristes. Donc bien sûr, c'est bien violent, avec des sports comme le combat biker et l'urban brawl.
Oui, ça a l'air d'être doux, ça.
Ouais, tout à fait, ouais. On se fait des câlins et tout. Il y avait des règles spécifiques pour créer des athlètes augmentés, avec tout un des contextes, avec des ligues professionnelles, etc. Quoi. Mais dans tous les cas, c'était des apparitions un peu... c'était un peu clairsemé, et c'était en arrière-plan, en fait, de ce type de jeu-là, quoi. Dans les années 90, ça commence à frémir un tout petit peu plus, mais c'est pas non plus la grosse explosion, hein. T'as des suppléments un peu décalés comme Street and Stadium pour le jeu Toon, ce jeu magnifique dans lequel on joue des dessins animés de façon Hanna-Barbera, Looney Tunes et compagnie, quoi. Ou bien entendu, bah, c'est Toon, hein, donc c'est parodique et puis c'est surtout pour la poilade, quoi. Ou alors tu trouvais aussi des systèmes très génériques comme le très célèbre GURPS, hein, qui avait des règles de compétition, de compétences sportives assez détaillées. Mais bon, c'était noyé dans plein d'autres règles à côté, et si tu voulais vraiment faire un jeu de sport avec GURPS, ben, il fallait un petit peu que tu sortes ta boîte à outils et que tu bricoles tout ça toi-même, quoi.
Oui, le terme très détaillé et GURPS, c'est un peu une tautologie, j'ai l'impression.
Ouais, ça avait l'air d'être assez fouillé, ouais, tout à fait. Ouais. Le vrai décollage, ça arrive vraiment avec le début des années 2000. On commence vraiment à explorer le thème du sport en lui-même, quoi. On voit apparaître des trucs plus ciblés, souvent autour du combat ou du spectacle sportif. Alors, par exemple, tu as X-Crawl en 2002, un sport extrême un peu barbare dans un univers fantasy. Donc là, on voit un petit peu l'influence sans doute de Blood Bowl là-dessus, quoi. Plus original en 2003 avec Kayfabe. Celui-là, c'est centré sur le catch, mais on joue ceux qui vont scénariser en fait les matchs de catch. Donc créer des histoires, inventer des rivalités et tout pour faire le show, quoi. Il y a une tripotée de trucs avec des joutes, des tournois moyenâgeux, des choses comme ça, des combats de gladiateurs aussi dans Tyran en 2006, des tournois d'arts martiaux façon Mortal Kombat avec Fight en 2005, et beaucoup plus connu, parce que je pense j'en ai souvent entendu parler des années plus tard, tu as Luchador, un jeu très pulp, où on joue des catcheurs mexicains masqués, mais là, on va combattre le crime, se battre contre des monstres et même des aliens. Et dans cette foultitude de jeux, il y en a un qui se détache, c'est Baseball the Role-Playing Game. Lui, il sort au tout début des années 2000.
Celui-là, il n'est pas fait pour qu'on se tape dessus, du coup.
Exactement, et là, c'est surtout un des rares jeux qui va parler d'un sport traditionnel, quoi. Un sport classique qui existe, qui n'est pas fait pour se taper dessus, et qui n'est pas du catch. Vous voyez exactement.
Ce qui est important, c'est que beaucoup de ceux que tu as mentionnés avant, c'était des sports d'affrontement, de duel. Là, on est vraiment face à un sport collectif, en fait. Ça change ouais. aussi pas mal de choses dans la vision de ce qui est proposé.
Ouais, tout à fait. Et là, c'est très centré sur le développement du personnage, sa carrière, les matchs, etc. Quoi. Et après, au tournant 2010, début des années 2010, là, par contre, le sport commence à vraiment devenir un sujet central dans de nombreux jeux. On sent une grosse influence dans ces jeux des mangas et des animés de sport, comme Captain Tsubasa, Akiyu, également, que je connais moins. Les jeux modernes mettent beaucoup plus l'accès, du coup, à partir de ce moment-là, sur le drama, les relations entre les personnages, la camaraderie, les rivalités, et beaucoup plus que sur une simulation pure et dure de ce qui se passe pendant une compétition, pendant un match de sport. Le jeu le plus emblématique qu'on va découvrir en cette vague, vous avez sans doute entendu parler, c'est Worldwide Wrestling RPG, qui sort vers 2014-2015, où il utilise un système de jeu beaucoup plus narratif, le PBTA, hein, pour les connaisseurs.
Fight Spirit aussi est vraiment un jeu en fait, qui se propose d'émuler carrément des animés, ce qu'on voit dans les animés de sport. En fait. Donc, c'est vraiment... Exactement ouais. dans cette vibe aussi.
Carrément, ouais.
Haikyuu, Slam Dunk et ce genre de choses-là. Ouais.
Free,
mais,
ouais.
Mais je voulais aussi dire que c'est pas complètement étonnant quelque part que ça arrive dans ce genre d'année-là, parce que justement le jeu de rôle se met à toucher à autre chose que le type d'univers et de fiction et de situation de jeu qu'on voyait beaucoup avant ça. Les années 2010, c'est effectivement l'explosion des PBTA, ça devient normal de pouvoir envisager un jeu de rôle qui n'est pas juste une bande d'aventuriers qui vont sauver le monde dans n'importe quel type d'univers.
C'est ça, on va sortir de l'enquête et de l'exploration comme seul moteur de l'aventure, en fait.
Et du coup, il y a une porte ouverte pour le sport.
C'est ça, carrément, ouais. Exactement. Et puis un sport où on va parler de beaucoup des à côté, en fait. Des histoires de cœur, des histoires de blessures de sportifs, la pression médiatique, ce genre de choses, quoi. On est beaucoup plus proche, en fait, surtout de séries télé sur le sport ou de films sur le sport qu'on a connus par le passé, quoi. Alors que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand on évoquait du sport mécanisé dans le jeu de rôle, on était en train de se dire, mais comment tu vas simuler un match de foot? C'est quoi tes caractéristiques? En se rapprochant beaucoup plus de ce qu'on trouve dans le jeu vidéo ou dans le jeu de plateau, tu vois. Où là, effectivement, oui, quand tu joues à FIFA, quand tu joues à un jeu de tennis, tu vas avoir des stats pour tes personnages qui vont être la rapidité, qui vont être est-ce que j'ai un bon revers, est-ce que je sais faire des passes, etc. Ce genre de choses, quoi. Chose qu'on va beaucoup moins se poser dans la question qu'on va se poser dans un Fight with Spirit, dans un Volley Boys, ce genre de choses, quoi.
On sort du défi de compétence, en fait. Moi, j'ai un souvenir très vivace parce que c'était une des premières campagnes que j'ai menées. C'était dans les Terres Balafrées pour Donjons et Dragons, 3e édition. C'était au début des années 2000 ou fin des années 90, je ne sais plus trop. Et la campagne commençait par vous arrivez dans un village et c'est la fête du printemps et il y a des épreuves sportives. Il y a du tir à l'arc, il y a de la lutte, il y a du bûcheronnage. Et en fait, à chaque fois, c'est un jet de compétences, point barre. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis dit, c'est pas ce que j'aime raconter autour du sport, juste la compétence. Et faire un test, ça je le garde peut-être pour un wargame ou pour un jeu de plateau, un jeu vidéo, mais en jeu de rôle, je peux sortir un peu de ce juste la compétence sportive et le défi sportif en fait.
Et oui, tu me fais penser à des scénarios d'initiation que j'ai souvent vu sur des jeux de rôle medieval fantasy où pour apprendre à utiliser tes compétences, qu'est-ce que Vlatipa, le seigneur d'à côté, qui organise un tournoi de tir à l'arc, et puis après il y a un petit peu de lutte, et puis il y a de la course à pied, et ça permet de faire des jets d'athlétisme, des jets d'extérité, des trucs comme ça, et c'est un peu plan-plan, mais au moins on apprend à lancer les dés, quoi, dans un contexte sportif, quoi.
Ouais, alors qu'une histoire de sport dans les autres médias, c'est pas ça, quoi. C'est les cris du public, c'est, comme tu disais, la blessure fatale au mauvais moment, c'est le petit copain dans les tribunes, c'est...
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Rocky et Adrienne, tout ça, quoi. Ouais.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que même quand on regarde maintenant un peu hors de la fiction, c'est un peu ce qu'on retrouve dans des retransmissions sportives, de vraies compétitions sportives, où souvent il y a un narratif à côté qui essaye d'être mis en place pour raconter autre chose que juste la performance pure des athlètes, en fait.
Et d'où l'énorme rôle d'ailleurs des commentateurs sportifs, hein. Et on imagine effectivement que le tournoi de tir à l'arc, si on commence à dire à l'une des personnes autour de la table, tiens, prends le micro et fais commentateur du tournoi, ça sera beaucoup plus fun que de juste voir les dérouler pour savoir si la cible a été atteinte ou pas, quoi.
Ouais. Et c'est un rôle qu'on retrouve dans World Wide Wrestling, qui est un jeu de catch, où on joue des catcheurs. On va créer les combats. Les combats sont prévus avec une fin que le meneur de jeu va décider. Mais souvent, les combats, au début, en tout cas, impliquent juste deux catcheurs, et les autres joueurs peuvent prendre le micro, entre guillemets, pour commenter le match. Et ça a des impacts mécaniques, puisque s'ils mettent en avant un personnage, ce personnage peut gagner des points pour performer encore plus sur le ring. Ce rôle du commentateur est très important.
Et d'ailleurs, ça a des impacts aussi sur les tables alentours quand on joue en convention. Je tiens à exprimer tous mes regrets aux personnes qui ont essayé de jouer à côté de la table où j'étais commentateur, par exemple à Vampire, en essayant de mettre une ambiance, alors que nous, on gueulait des trucs du genre « Et c'est le son de la troisième corde !»
Toi, tu jouais à Glorious Snow, à ça.
Non, c'était World Wide Wrestling. Mais ouais.
Ah, d'accord. Ça pourrait être intéressant de creuser un peu plus c'est quoi un jeu de rôle de sport, peut-être avec Mekalis. Il me semble que tu voulais nous parler d'un jeu en particulier.
Oui, du coup, c'est Fight with Spirit. C'est un jeu très particulier, oui. Par exemple, là, vous parliez de l'importance du commentateur, il n'y en a pas du tout. Par contre, des petits copains ou petites copines dans les tribunes et des familles, des rivaux, etc., ça, il y en a à l'appel. Donc c'est un jeu assez récent qui a été créé par les personnes qui ont écrit Good Society. Pour ceux qui connaissent Good Society, vous doutez que c'est un jeu très très narratif. Voilà. Fight with Spirit, c'est un jeu un jeu narratif à narration partagée, mais qui est très bien cadré en fait par les règles. Avec en gros, une campagne se joue en général en cette partie avec la session zéro, on définit tout le monde, le sport qu'on va faire, l'équipe qu'on va créer, les personnages, les PNJ, tout ça. Et puis après, on a à chaque fois une session de drama, une session où on a un tournoi, une session de drama, la demi-finale avec une autre équipe, une autre session de drama et la finale avec la dernière équipe en jeu.
Quand tu dis session, c'est quoi? C'est
partie, ouais. C'est
une partie entière. Enfin, c'est,
oui.
D'accord. Donc c'est un jeu de campagne, en fait.
Oui. Il y a une possibilité de réduire si on veut faire une mini-campagne et de supprimer un des tournois.
Mmh.
Et donc, ce qui est super, c'est que on peut choisir le sport qu'on veut. On part du principe que tous les sports sont mixtes. On doit se concerter là-dessus. Ça peut très bien être un sport collectif, mais ça peut aussi être un sport individuel. Les deux sont gérés, en fait, lors des tournois. Et on crée l'équipe. Il y a, comme dans Good Society, il y a un cadrage de sécurité émotionnelle aussi. Donc, je trouve ça important, personnellement. Donc, on doit choisir une équipe après le sport. Il y a différents profils d'équipe, en fait, avec différentes mentalités qui vont donner une coloration à la campagne, en fait. Avec son personnage, donc, ouais.
Ça fait un peu... Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un gros historique jeu de rôle, c'est qu'il y a un peu cette histoire comme on retrouve dans les gangs de Blades in the Dark, où selon le type de gang qu'on va choisir, on va vivre des aventures différentes. Là, selon le type d'équipe qu'on va choisir, je suppose que ça va amener des intrigues différentes, des arcs différents dans l'histoire, quoi.
Ouais, en fait, ça dépend vraiment aussi à quel point... donc oui, c'est vrai que par rapport à la coloration de l'équipe, il y a ça. Je pense à une équipe où il y a, par exemple, toute la com de l'équipe est super importante, les réseaux sociaux, ils se font... Il y a des gens qui viennent les filmer pour le portage, des choses comme ça. Donc évidemment, oui, ça va donner une coloration assez particulière. Mais après, aussi en fonction du sport... Après, on peut choisir, on a un curseur sur le sport où on peut choisir d'un niveau très peu détaillé de description du sport en question à un niveau très détaillé avec un niveau intermédiaire, notamment pour les tournois. Et c'est vrai que si on choisit un niveau peu détaillé, du coup, l'intrigue va se concentrer vraiment beaucoup sur tout ce qui est drama et intrigue entre les personnages et plus que sur le sport en question.
Ça veut dire qu'on pourrait presque faire un Fight with Spirit sur le volet sans connaître vraiment les règles du volet, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, pratiquement, ouais.
Ok.
Genre avoir vu des... Bah, IQ, par exemple. Ouais. Imaginons que t'as vu IQ. Bon, IQ explique pas énormément les règles du volet, quoi. Un peu.
Moi, j'ai vu beaucoup d'épisodes de Jeanne et Serge quand j'étais enfant.
Oui, moi aussi.
Quand je suis arrivé au collège et que j'ai fait mes premiers matchs de volley, au final, j'ai vu que je comprenais rien au volley et que le dessin animé ne m'avait pas appris les règles du sport du tout. Hein.
Oui, complètement. Oui. C'est encore pire, je crois, dans Jeanne et Serge. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs flous, mais j'étais pas très vieille. Mais...
Est-ce qu'on parle de Olivier Tom avec ses cascades, ses pyramides de trois joueurs
Les stades arrondis.
Les terrains de foot, on voit la courbure de la terre tellement ils sont immenses.
Ouais, mais ça, c'est le drama, ça.
Ouais, et le score quasiment tout le temps le même, 2-1.
Voilà. J'avais pas remarqué, mais j'ai moins regardé, peut-être. Oui, ben, de toute façon, c'est le drama qui va compter. Et donc, et après, ben, quand on connaît un peu le sport, moi, je sais que donc j'ai fait deux campagnes, j'en ai fait une avec du hockey sur glace. Et bon, on avait choisi un niveau moyennement détaillé. Et donc, je m'étais un peu renseignée sur les règles, même si je connaissais un peu déjà. Voilà. Après, c'est vrai que le tournoi, même sans connaître énormément le sport auquel on joue, je pense, donne des très, très bonnes sensations, avec presque cette impression d'être sur le terrain, en fait. C'est incroyable, vraiment, dans ce jeu, ce truc-là. Et en fait, sinon, on a joué aussi à une version fantasy du jeu qui est proposée par les autrices. Et en fait, là, on faisait c'était des tournois où on montait des griffons. Donc, complètement différent. Et là, on a inventé pas mal de choses parce que de toute façon, le sport n'existe pas. Donc, forcément, c'était un peu...
Et pour info, c'était à quel niveau de détail ça? Enfin, tu vois, je me demande à quel point, pour poursuivre sur ma question de tout à l'heure, tu vois, c'est à quel point est-ce que le niveau de détail, c'est juste une façon d'insister plus sur les parties elles-mêmes, ou si c'est une façon d'aller mettre plus de notre connaissance du jeu à l'intérieur?
En tout cas, de mon expérience, c'est que ça... Bah, ça te met dedans quand t'es dans les tournois, en fait. C'est que si on a décidé de mettre un peu de détails, en fait, on va décrire ses actions. Enfin, donc là, pour les griffons, des fois, c'était un peu bizarre, parce que du coup, je me rappelle d'un joueur qui avait décrit que son griffon plongeait, puis après se mettait à tournoyer. Enfin, voilà. Et du coup, c'était un peu complètement... fantaisie inventée, quoi. Mais pour le hockey, du coup, bon, bah voilà, on parlait plutôt de contact, de vitesse sur la glace, de choses comme ça, quoi. Donc, c'était plus comme ça. Mais en fait, dans les tournois, t'es toujours face à un adversaire ou à quelqu'un qui te fait face et en fait, tu dois le défier. Donc, t'as des cartes, tu dois tirer des cartes. Donc, ça change selon toutes les cartes de jeu. Tu dois tirer des cartes avec des couleurs et des numéros, un peu comme un système de résolution, quoi. Sauf que c'est pas des dés, c'est des cartes. Voilà, je me répète un peu. Pardon.
Et du coup, ça force à décrire du coup ce système-là.
Oui, parce que tu choisis une carte de jeu et la carte de jeu a une problématique. Par exemple, c'est pourquoi faire du sport me procure autant de joie. Et donc, en fait, il y a tout un scénario derrière. Et donc, tu vas suivre le scénario. Donc, on décrit un peu les choses. Et on te dit, bah voilà, donc toi, à ce moment-là, comment tu te sens, etc. Donc, après, il y a quelqu'un qui doit décrire comment se sent ton adversaire. Et puis, à la fin, tu dois trancher. Enfin, mais donc, t'as réussi ton action et que t'as marqué ou que ton action a été couronnée de succès. Et à ce moment-là, tu dois choisir entre plusieurs options. Comment ça a renforcé ta joie. Donc, c'est combiné aussi avec d'autres questions qui sont posées sur les cartes de résolution, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités, en fait, pour vraiment explorer les sensations du sport auquel on se consacre.
Donc, tu te concentres plus sur les sensations du sport que sur le fait de réussir ou pas, quoi, finalement.
Oui, exactement. Et même des fois, on peut tout à fait jouer en Play Toulouse et dire j'avais pas la tête à ça, c'était horrible, c'était trop mal passé à la fête juste avant, machin m'avait largué.
Tout à fait possible de jouer comme ça. La mort de mon père et la façon dont. Je vois très bien. J'ai des images de slam dunk qui se superposent dans ma tête. Oui, je vois très très bien.
Et d'ailleurs, en plus, dans les tournois, en général, c'est là qu'on résout ce qu'on appelle les traits. En fait, c'est des problématiques qu'on a choisies pour ce personnage. Donc, alors souvent, c'est un peu du campus drama. Hein, donc, on est souvent sur un campus soit lycéen, soit universitaire. Quand on joue pas avec les griffons. Enfin voilà, donc il y a plein de problématiques du genre « Oh là là, j'ai une bourse, mais est-ce que je vais la conserver parce que je m'entraîne trop, j'ai pas de bonnes notes, etc. » Ou « Comment est-ce que je vais annoncer à mes parents que je veux me consacrer au sport alors qu'ils sont pas d'accord ?» Enfin, voilà, plein de dilemmes comme ça qu'on doit résoudre souvent dans les tournois avec ce que le sport nous fait vivre.
Et donc, si j'ai bien compris, en fait, quand tu joues en campagne avec les règles standards du jeu, tu as déjà une trajectoire qui est déterminée. Donc, tu sais que tu vas avoir, par exemple, 3 matchs et en fait, on arrive en finale. Donc, très clairement, le jeu ne mécanise pas en lui-même la rencontre. Hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va arriver à un moment donné en finale et que peut-être que c'est là qu'on risque de perdre, peut-être, tu imagines, non ?
Oui, parce que les enjeux, les points à atteindre sont de plus en plus élevés au fur et à mesure dans chaque tournoi. Pour gagner. Donc, mais après, tu as aussi justement quand tu joues dans la partie drama, donc tu fais des scènes entre les personnages avec en laissant s'exprimer leurs sentiments contradictoires. Et voilà. Tu as un système qui s'appelle le Trouble Token, donc le jeton de problème, quoi. Tu peux offrir des trouble tokens aux autres et ça leur donne des points supplémentaires, en fait, pour les tournois. Et plus tu résous tes traits, tes dilemmes de personnages, et aussi ça donne d'autres points qui te permettent de donner de nouvelles chances de réussir au tournoi d'après. En même temps, les points à avoir pour réussir tes actions augmentent au fur et à mesure des tournois. Mais tu as aussi accumulé normalement plus de chances de pouvoir t'en sortir.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc, tout est imbriqué et tout permet d'engranger des points, quelle que soit la phase du jeu, quoi.
Tout à fait. Et du coup, offrir des travel tokens, ça permet d'augmenter un petit peu le niveau des enjeux aussi émotionnels pour les personnages, quoi.
Ça me fait beaucoup penser à la structure aussi de Glorieuse, qui est un autre jeu de catch qu'on a très rapidement évoqué tout à l'heure.
Le syndrome.
Où justement toute la structure que tu racontes en fait m'a fait penser à ça, c'est-à-dire le fait que finalement la trajectoire est déterminée. Donc c'est un jeu où on joue des catcheuses dans les années 80. On commence par l'audition. Et on termine par le grand final de l'émission télé par exemple sous la tour Eiffel ou enfin dans un lieu prestigieux, avec entre les deux une ou deux autres occasions où on va décrire des combats. Donc cette trajectoire est déterminée, mais entre chacun de ces occasions de voir du catch, on voit aussi la vie de ces femmes en dehors du catch. Et c'est l'alternance entre ces scènes, un petit peu comme tu décris, entre les scènes, entre les sessions drama et les sessions tournoi dans Fight with Spirit, où tu vas avoir du coup des choses qui vont passer d'un type de session à l'autre pour faire monter la mayonnaise et faire monter l'ensemble de l'histoire, quoi.
C'est vrai, j'ai eu beaucoup de retours de bons retours sur le jeu Glorieuse et ça me tentait bien d'essayer, mais du coup, moi, c'est vrai, je suis pas fan de catch et du coup, ça m'a toujours retenu en vrai. Parce que c'est ça, je pense, le problème. Je vais pas dire le problème, parce que c'est pas un problème pour ceux qui aiment les sports qui sont représentés par ces jeux. Mais c'est vrai que moi, ça, enfin, il y a beaucoup de sports, ça me sent plus, quoi.
Le catch, c'est ni plus ni moins que du jeu de rôle, hein.
Oui, c'est vrai, de toute façon, mais. Mais voilà, du coup, avec Fight with Spirit, ce que j'ai aimé d'emblée, c'est bon, déjà, le fait qu'on puisse choisir le sport, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord sur un truc, allez, on part sur ça et tout. Et je trouvais ça super cool, en fait, de pouvoir vraiment faire le sport jouer le sport que tu voulais, en fait. Et en plus, bon, après, j'avoue que sur le côté émulation d'animé ou de manga de sport dont moi je suis assez fan, j'ai cité plusieurs animés mais la liste pourrait beaucoup s'allonger encore, bah ça marche très très bien en fait, c'est vraiment tout à fait ça, avec les approximations que Gulix soulignait tout à l'heure sur le niveau d'explication des règles.
Mais je pense que beaucoup de fictions sportives ne sont pas là pour nous expliquer les règles du sport, pour suivre les règles du sport qui est présentée, mais pour raconter une histoire qui est à côté du sport, en fait.
Et accessoirement, ouais. Ramener de nouveaux licenciés une fois que ça sera un grand succès commercial.
Parfois.
Mais du coup, Gulix, on t'a entendu en pointillé jusque-là. Est-ce que ça serait pas le moment de nous présenter, toi, ton point de vue sur le sport, le jeu de rôle avec le sport, et qu'est-ce qui t'a amené à faire du jeu de rôle avec le sport, même si t'en as déjà un petit peu parlé?
Oui, alors, donc comme j'ai dit, moi j'ai commencé le jeu de rôle avec Warhammer, donc très peu de sport, mais je connaissais un peu le sport dans Warhammer avant. Je viens d'un milieu où le sport est assez important. J'ai fait du foot principalement, j'ai fait un peu de volley aussi, et je vivais dans un tout petit village où la seule activité entre guillemets culturel, c'était le club de foot du village. Mon père était entraîneur, ma mère tenait le bar du village où se retrouvaient les équipes avant et après les matchs. Donc j'ai baigné dans cette ambiance-là, mais mon père a toujours regardé du sport à la télé et je l'ai accompagné avec ça. Moi, et je le reproduis toujours, même si en fait c'est pas un sport que je suis plus que ça, mais j'adore écouter le Tour de France à la radio. C'est des souvenirs d'enfance au camping. Et pendant l'été, en fait, alors que c'est pas du tout le genre de radio que j'écoute, je me mets à des fois juste essayer de capter une étape du Tour de France à la radio et j'aime les sensations que ça me procure, en fait. Même si au final, je vais même pas suivre qui va gagner l'étape, où est le classement général. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est les émotions que ça me procure. J'adore regarder les Jeux Olympiques, prendre un sport au hasard et suivre ce qui se passe, écouter, découvrir les histoires de ces athlètes qu'on connaît pas forcément. Et puis aussi les fictions sportives, que ce soit en film, en série télé. J'ai parlé de quelques dessins animés qui ont rythmé mon enfance, hein, Jeanne et Serge, Olivier et Tom, L'École des Champions. Et puis plus tard, en fait, une qui m'a vraiment soufflé et marqué, c'est Friday Night Lights, donc qui n'est pas un dessin animé, qui est une série télé américaine, qui a 5 saisons de mémoire, et qui parle d'un lycée et de son équipe de foot américain au Texas. Pour apprécier Friday Night Lights, il n'y a pas besoin d'apprécier le foot américain. On peut s'en fiche complètement. En fait, c'est un peu comme ce que disait McAllis. Hein. Le foot américain est présent à fond dans la série parce que c'est la culture de cette ville. Et tout tourne autour de cette équipe. C'est la fierté de la ville. Les lycéens sont les stars de la ville. Et au final, ça pourrait être du basket, ça pourrait être du hockey sur glace, ça pourrait être du volley, ça pourrait se passer dans un autre pays. Mais le sport amène des émotions à tous ces gens, et il y a le côté dépassement de soi, il y a le côté drame aussi, hein, qui est ultra présent, que ça soit au niveau, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi, ou à qui on donne plus d'opportunités alors que je suis peut-être meilleur que lui, les blessures, les doutes, il y a tout ça en fait, et ça fait un vrai melting pot d'émotions, et moi c'est ça que j'aime retrouver dans le jeu de rôle, et je trouve que la fiction sportive permet d'aborder ça notamment.
Et d'ailleurs, enfin, moi, il y a des animés, mais des mangas, qui en fait, enfin, pour moi, sont des mangas ou des animés de sport, mais qu'en fait, on considérerait pas comme un sport. Par exemple, moi, je pense à quelque chose comme Hikaru no Go. C'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend le Go. Et donc, moi, j'ai jamais réussi à apprendre le Go avec encore ce manga ou ce truc. Et ça a tous les codes, en fait, du manga de sport. Donc, c'est vraiment, mais ça nous fait vivre les mêmes sensations. Et pourtant, c'est un truc un peu un télo, finalement. Pareil, un animé donc adapté d'un manga qui s'appelle Shiayafuru, qui parle de Karuta, qui est une pratique très japonaise avec des cartes, de la poésie, etc., mais avec des tournois très très intenses, etc. Et moi, je pense que c'est aussi un animé de sport. Par exemple, tu parlais de blessures, Gulix, ou de ou de progresser, ou d'avoir les mêmes chances que d'autres, etc. Mais c'est exactement ça, en fait. Et donc oui, ça peut être du finalement du football américain, ça peut être du baseball, du basketball, mais ça peut finalement aussi s'adapter à d'autres activités un peu compétitives comme le go ou le karuta, par exemple.
Ouais, le karuta, effectivement, c'est... J'ai pu voir une vraie vidéo d'un tournoi de karuta. Enfin, c'est un tournoi sportif. Ça a tous les codes, quoi. C'est-à-dire, il y a des arbitres, il y a une tension,
Il faut même avoir des bons abdos, il paraît, pour la posture.
Ouais, il y a un truc de rapidité et tout, alors que bon, oui, globalement, rapidité. C'est arriver à attraper une carte posée par terre avant l'adversaire, alors oui. Qu'on est...
Et c'est la carte d'un poème. Attention, enfin, ça décrit le deuxième vers d'un poème. Donc,
C'est ça, alors qu'on est toutes les deux à genoux face aux cartes. Enfin, bref, c'est à la fois très loin de ce qu'on imagine comme le sport, parce qu'on a nos représentations de ce que c'est que le sport, mais en fait, sur tout l'aspect justement ethnologique et drama, on est en plein dedans, quoi. C'est assez intéressant d'ailleurs comme pratique. Mais pardon, Gulix, on a divergé. Continue, continue ton histoire.
Oui, donc j'ai plongé dans le jeu de rôle adolescent. J'ai une bonne pause et je suis revenu en tant que jeune adulte dans le jeu de rôle. Je n'avais connu que Donjons et Dragons et Warhammer auparavant. Avec très peu de sport, à part le petit tournoi que j'ai mentionné un peu plus tôt. Et là, j'ai découvert Fiasco. Pas avec du sport tout de suite, mais je sais que dans les premières parties, on a intégré du sport assez vite. Et ça m'a amené en fait, à réfléchir, à écrire un cadre pour Fiasco où j'ai voulu jouer le sport, le mettre à fond dedans et le mettre en avant, la partie sport du cadre de Fiasco. Et dans le cadre du sport, j'ai écrit un autre jeu après qui s'appelle Un dernier tour de piste, où là, on va jouer une course. Mais comme on vient de le dire, ce n'est pas une course automobile, ce n'est pas une course de moto, ce n'est pas une course de ci ou de ça, c'est une course point barre. Ce que je voulais explorer, c'était ce thème de la course. Peu importe le cadre, peu importe le type de course, tout est possible en fait. Et je pense que c'est ça qui est réussi avec Fight with Spirits, la façon dont tu le présentes. C'est un jeu qui est sur mon radar depuis quelques temps. Là, tu m'as donné encore plus envie de le faire remonter dans ma pile à lire. Je pense qu'il a, au vu de ce que tu décris, il a réussi à synthétiser ce que c'était ce thème du sport, comment il peut être employé. Et en fait, tu peux mettre n'importe quel sport, ça va fonctionner.
Ouais,
ça, c'est intéressant aussi à voir.
C'est un thème large. Enfin, je le conseille à tout le monde.
Voilà. Et c'est ce que j'ai écrit quand j'ai écrit la Coupe du Chaos. La Coupe du Chaos, je l'ai écrit après avoir... En gros, les inspirations, c'est Friday Night Lights, la grosse bêtise des Français à la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec le bus, et puis Les Yeux dans les Bleus, un reportage sur la Coupe du Monde 98. J'avais envie de raconter, c'est une semaine avant un grand événement sportif, une finale. On peut jouer des lycéens, on peut jouer des adultes, on peut jouer à un niveau régional, on peut jouer à un niveau international. C'est Fiasco, donc ça va mal se finir pour la majeure partie des...
Ouais, justement, j'avais une question là-dessus, parce que Fiasco, c'est quand même un jeu assez particulier, où on est censé jouer des gens avec de grandes ambitions, en tout cas plus grandes que leur intelligence. Mmh. Et c'est effectivement des histoires qui se terminent mal. Qu'est-ce qui t'a fait dire que Fiasco était un bon jeu pour pouvoir mettre du sport dedans ?
Plein de reportages sur des événements sportifs, sur des sportifs eux-mêmes. C'est le genre autobiographie sportive, même si généralement les gens n'écrivent pas eux-mêmes leur autobiographie, mais c'est un genre que j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que Fiasco était bien parce que sur une finale, il va y avoir un perdant.
Mmh.
On peut être du côté des perdants, on peut être du côté gagnant. Dans mon cadre, je précise, et c'est comme ça que je l'ai joué la majeure partie du temps, au final, l'histoire, elle s'arrête avant le coup d'envoi.
Ah oui, d'accord.
Avant le coup d'envoi de la finale. On va jouer toute la semaine avant, il y a plein de choses qui vont mal se passer. Peut-être qu'au final, il y a un de nous qui va se faire blesser, il y en a un de nous, il va rentrer sur le terrain, mais il sait qu'il est obligé de perdre parce que s'il gagne, il y a les bookmakers qui vont lui être après lui. Il y en a un qui a tout ruiné avec sa famille. On est sur un fiasco assez léger, c'est-à-dire on va pas jouer jusqu'à la mort ou le carnage entre les personnages. Généralement, je le fais jouer avec les règles soft de Fiasco. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'explorer. En fait, on est en finale, on est au top de notre forme. Et là, en fait, c'est la dernière semaine. Et là, il y a les ambitions, les pulsions de tout le monde. Celui qui est remplaçant, qui va peut-être faire une crasse au titulaire pour prendre sa place le jour de la finale. Celui qui a un plan pour la saison prochaine et qui, au final, la finale ne l'intéresse pas du tout. Et je trouvais que ça donnait des parties assez chouettes de s'arrêter juste avant la finale. Et c'était un reportage que j'avais vu. Ça, c'était sur c'était l'épopée de Monaco en Ligue des Champions, une année où ils avaient... Moi, ils m'avaient procuré énormément d'émotions, puisque c'était des matchs où ils étaient donnés perdants et il y avait des scores de folie, des retournements de situation à chaque match. C'était assez fou. Et ils sont plantés complètement en finale. Voilà, il y a eu un de leurs joueurs majeurs qui se blesse, ils se prennent 3-0 en finale, il n'y a même pas de match en finale. Mais tout le reste de l'épopée était vraiment magique et ils avaient quelqu'un qui les suivait toute la saison pour faire un reportage et qui a eu de la chance de capter tous ces moments-là. Et le reportage, en fait, qu'il a fait, il le termine au moment où le bus rentre dans le stade pour la finale.
Ouais.
Et c'est cette scène-là, en fait, elle m'a marqué et je me suis dit, je vais l'écrire noir sur blanc dans le cadre de jeu, dire n'hésitez pas à ne pas jouer la finale et à arrêter juste avant.
Très très cool comme idée.
Et donc en gros, c'est un cadre autour du sport où clairement on ne fait jamais une seule compétition. Parce que le sport est un vecteur pour moi pour les histoires. Mais c'est comme ça que je vois les fictions sportives. Les bonnes fictions sportives, c'est pas celles qui s'intéressent vraiment au sport, mais plus aux hommes et aux femmes qui sont dans ces compétitions, dans ces entraînements, dans toute cette mécanique de pression, d'entraînement, de compétition qui amène en fait à faire ressortir des émotions, tout simplement.
Alors, moi, il y a un truc dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant qui attire mon attention, c'est cette idée que on peut jouer à un sport générique, donc c'est ce que tu défendais tout à l'heure, Makeli, sur Fight with Spirit, où on pouvait choisir le sport qu'on voulait et y jouer. Et puis ce que tu disais, toi, Gulik, sur le fait que toi, tu voulais te concentrer sur... Enfin, avec un dernier tour de piste, tu as voulu te concentrer sur... quelque chose qui reste générique, c'est-à-dire une course, n'importe quelle course, mais qui est déjà plus restreint, donc c'est pas n'importe quel sport, c'est n'importe quelle course. Et je voudrais qu'on explore un petit peu justement les différents types de... Alors je sais pas, c'est type de sport ou type d'histoire qu'on peut raconter avec tel ou tel sport, mais peut-être qu'on peut commencer par parler justement des types de sport. Voilà, et on qu'il y a les courses.
Moi, quand j'ai écrit un dernier tour de piste, donc qui est un jeu basé sur Pour la Reine, puis c'est à cause de Mathieu B que je l'ai écrit, hein, je vais directement accuser les gens.
Ouais,
si je n'avais pas fait Force the Drama, j'aurais jamais écrit un dernier tour de piste.
Je te fais des bisous quand même, je t'apprécie beaucoup, si tu m'accuses.
merci pour ce génial outil. Et quand j'ai lu et joué à Pour la Reine, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un jeu, j'ai envie de garder le même cadre, le même schéma que Pour la Reine, et donc d'avoir un personnage central qu'on va pas jouer, qu'on va tourner autour. Et cette histoire de sport me tournait la tête. Donc, le personnage central, c'est la championne, elle a gagné toutes les courses cette saison, et nous, on joue les outsiders de la course. Et qu'est-ce que je voulais mettre en place ? J'ai réfléchi en fait au thème que je voulais mettre dans le jeu, et les thèmes, c'était le sacrifice, la rivalité et la camaraderie. Je pense que des gens qui font des courses et qui se tirent la bourre toute la saison, que ce soit en vélo, que ce soit en Formule 1, en moto. Ce sont des gens qui ont un ego très très fort sur tous les champions et qui donc il y a une rivalité monstrueuse entre eux pour savoir qui sera le plus fort. Mais à force de se côtoyer, je pense aussi qu'il y a une grande camaraderie et puis bah, il y a tous ces sacrifices qu'ils mettent en place. Donc, ça collait vraiment au thème, c'était ça que je voulais faire. Et toutes mes questions que je pose dans ce jeu-là tournent autour de ça. Elles ne tournent pas autour de la performance, elles ne tournent pas autour de qui va être le plus fort, elles tournent autour de ces trois thèmes et c'est ça que je voulais aborder dans une fiction autour de la course.
Ouais, effectivement, on voit bien ce qui est particulier dans une course. On est globalement dans des sports qui sont individuels. Bon, bien sûr, il y a des trucs en relais, des trucs par équipe, etc. Mais on est quand même dans un sport qui est... où à un moment donné, sur le terrain, il y a... Enfin, dans une équipe donnée, il n'y a qu'une seule personne, quoi.
Et on est sur un sport individuel de... Je vais pas dire d'endurance, mais... Je pense que cette notion de sacrifice est importante et on peut le voir dans... Je sais pas s'il y a vraiment des films, j'en ai jamais vraiment vu, mais des films qui tournent autour par exemple, de marathoniens ou de sports d'endurance comme ça, de courses longue distance. Après, moi, j'ai vu des reportages...
Il doit y avoir des films sur les 24 heures du Mans ou des choses comme ça. Enfin...
Voilà, la course automobile est plutôt bien fournie en film et en bon film en plus. Mais il y a ce côté sacrifice, je pense, qui est assez important. Et on va dire que c'est un trope très, 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 très utilisé dans le cinéma hollywoodien, la notion de se dépasser et de se sacrifier pour un but lointain.
Pas mal de films sur la course. Hein.
Sur la course automobile, beaucoup. Hein.
Et sur la course à pied, sur où tu parlais du marathon, tu sais, les marathoniens, le dépassement de soi et tout. Bon, on va mettre de côté Forrest Gump, hein, qu'on a tous vu.
Mais il parle aussi du foot américain.
Il parle aussi du foot américain, effectivement. Et de ping-pong, de mémoire.
Aussi, oui.
Un grand film sur le sport.
Mais après, je ne sais pas, par exemple, Marche ou crève, ça a été adapté au cinéma ou pas?
Ça arrive. J'ai vu une affiche il y a quelques semaines d'un projet en cours.
Ok, bah ils ont mis le temps quand même.
Et oui, mais Marche ou crève, c'est presque un film sur le sport, entre guillemets, même s'il y a autre chose. Mais c'est comme Rollerball, qui au final... Le sport est là pour parler d'autres choses. Mais oui, il y a de très grands films de course et souvent, il y a une notion de sacrifice. Même, je pense, dans beaucoup de films de sport, il y a cette notion de sacrifice. On voit Rocky, par exemple.
Oui.
Pour en revenir au jeu de rôle, tu as un jeu, bah justement, sur Force of Drama, que Jeff Stormer m'avait gentiment donné l'autorisation de traduire et de publier, qui s'appelle « Doing the Job ». Sur le principe qui est très proche en fait du coup de ce que tu nous décrivais pour un dernier tour de piste, parce que pareil là on va jouer des catcheurs qui vont être là pour mettre en avant une championne dont on sait déjà qu'elle avait gagné à la fin quoi. Et ils sont là pour perdre en fait quoi. Et c'est un des tout premiers jeux de rôle de sport auquel j'ai dû jouer et qui m'a vraiment bouleversé à chaque partie parce qu'à chaque fois vraiment on se concentre sur qu'est-ce qu'il y a derrière les paillettes. Quoi. C'est vraiment pas. On n'est pas là pour savoir qui va gagner, hein, comme dans un dernier tour de piste. Mais on va s'attacher à tous les petits détails des vies assez dures, en fait, de ces athlètes, hommes et femmes, qui peuvent avoir derrière tout le strass et tous les shows TV et tout, des vies sacrément cabossées et qui. Un peu comme dans le film, justement, The Wrestler. Elles sont vraiment passionnantes à jouer en jeu de rôle, quoi.
Je confirme, j'y ai joué à ce jeu et c'est un très très bon jeu qui a complètement cerné l'essence du catch dans les vestiaires, en fait.
Ça fait un moment qu'on parle de catch en jeu de rôle et j'aimerais juste, quelque part, pas juste tourner autour du pot et faire remarquer qu'effectivement il y a beaucoup de jeux de rôle de sport qui parlent de catch et qui parlent pas de boxe ou de judo ou d'autres sports de combat. Et je pense que c'est quand même très particulier au catch. C'est le fait que ça soit un sport qui s'assume comme un spectacle dans lequel il y a une fiction et qui du coup je trouve, peut parler beaucoup aux gens qui font du jeu de rôle. Alors moi-même, j'ai jamais regardé de catch à la télé ou en vrai. Pourtant, je trouve que les jeux de rôle de catch auxquels j'ai pu jouer m'ont toujours beaucoup parlé. Et ça, je pense que ça vient du mot kayfabe. Hein, c'est d'ailleurs le nom du premier jeu de rôle de catch que tu citais, Mathieu, tout à l'heure. C'est cette notion qu'il y a la vérité projetée du spectacle qui est fausse et que tout le monde sait qu'elle est fausse. Et il y a ce qu'il y a en dessous, que je sais plus qui disait tout à l'heure, le qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, qu'est-ce que ressentent vraiment les catcheurs, parce que tout est mis en scène, non seulement ce qui se passe sur le ring, les entrées en scène des catcheurs, les vraies fausses interviews avant où ils se pourrissent la tête en disant « Ouais, mais je vais te défoncer au prochain match, tu vas voir, etc. etc. » Tout ça, c'est de la fiction. Tout le monde le sait. Et pourtant, de temps à autre, il y a quelque chose qui vient briser cette fiction, qui vient faire voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est des moments extrêmement humains et importants. Et tout ça, enfin, ce fait qu'on est conscient de jouer une fiction, qu'on est là pour raconter une histoire à travers un combat, mais c'est pas vraiment le combat en lui-même qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Tout ça, je trouve que c'était vraiment une super porte d'entrée pour le jeu de rôle, pour s'emparer du thème du sport, même si on peut faire plein d'autres choses que le catch, hein, on est complètement d'accord, mais voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a toute cette catégorie de jeux de rôle qui s'intéresse au catch.
Je pense aussi que il y a beaucoup de jeux de rôle qui s'intéressent au catch, qui viennent d'auteurs américains, et c'est une vraie culture là-bas. Et c'est une culture où on se prend à imaginer des scénarios pour ce qui se passe, imaginer comment tel catcheur qu'on apprécie mais qui n'a peut-être pas le spotlight qu'on pense qu'il mériterait, comment est-ce qu'on pourrait le pousser, dans quelle histoire on pourrait l'injecter, et au final ça amène à créer des histoires, et ben, le jeu de rôle c'est on crée des histoires. Et je pense qu'il y a ce côté un petit peu qui se marie, il y a peut-être un peu de transverse aussi avec le côté dans les années 80, où je pense que les cultures un peu rock, les cultures jeu de rôle et les cultures catch, il y avait de la porosité, je pense, entre elles. Alors, je suis pas sociologue, hein, je parle vraiment comme ça de mes premières impressions. Mais moi, je pense qu'il y a un peu de ce côté-là. Je pense que les enfants qui, dans les années 80, suivaient le catch étaient plus proches des voire hétérolistes, plus que ceux qui suivaient, par exemple, du basket ou du judo ou ce genre de choses. Et puis, bah, il y a le fait que dans le catch, on peut jouer des personnages plus grands que nature. C'est ce qu'on aime bien des fois aussi jouer en jeu de rôle. Est-ce que je peux mentionner un jeu de catch, moi, qui m'a touché, qui m'a ému, qui n'est pas très connu? Il n'existe qu'en anglais. Il s'appelle My Way. Et je ne sais plus... C'est toi, Mathieu, qui a parlé de The Wrestler avec... l'acteur dont j'ai oublié le nom tout à l'heure. Et My Way, c'est The Wrestler en jeu de rôle. C'est un jeu de rôle solo. C'est un jeu Wretched and Alone. Donc on joue avec une tour de Jenga. On va tirer au fur et à mesure des blocs de la tour de Jenga. Et quand elle s'écroule, notre carrière s'écroule, voire pire. Et on joue en fait un catcheur proche de la retraite qui a le corps complètement cabossé, qui vit dans sa voiture puisqu'il n'a vraiment pas une thune. En fait, les cartes vont nous amener à aller de réunion en réunion. Est-ce qu'on abandonne notre famille pour aller finalement faire un match qui va nous rapporter $20 est-ce qu'on pousse un petit peu ces petits jeunes pour leur donner, leur faire que la couverture se tire un peu vers eux? Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de garder un petit peu toute cette gloire de longtemps pour, juste pour nous, parce qu'en fait, on en a besoin pour vivre? Voilà, c'est... super jeu de rôle solo. Si vous avez aimé The Wrestler ou si vous aimez ce genre d'histoire de personnes complètement cassées par la vie, c'est très très chouette.
Je te remercie de citer ce jeu-là parce que je pense que tu es la seule personne que je connaisse, surtout Internet, à avoir joué à ce jeu-là. Et oui, je me rappelle avoir vu tes retours à son propos à l'époque. Ouais. Un sacré truc, ouais.
Et alors après, on a parlé de course. On a parlé avec Fight with Spirit, j'ai l'impression, plutôt de sport collectif ou...
Les deux sont gérés par le jeu, sport individuel et sport collectif.
Ok.
Bah, d'ailleurs, les combats de Griffon, c'était pas toujours des combats, parce que nous, on avait décidé de pas blesser les animaux, donc c'était des choses très, scénographié. C'était un sport individuel, c'était un contre un, et donc c'était aussi géré par le jeu.
Mmh. Ah, super que tu reviennes là-dessus, j'allais te poser la question du coup, ça donnerait quoi selon toi une partie où tout le monde pratique un sport solo, comme par exemple du tennis, de l'escrime, tout ça sans équipe quoi.
Si, si, du coup, je l'ai...
Ah, tu l'as essayé, excellent.
Je l'ai joué, enfin, avec les griffons, donc. Et on était bien dans une équipe, puisqu'on s'entraînait ensemble, en fait. On était dans le même établissement, je crois qu'on avait choisi un lycée, cette fois-ci. Et donc, on s'entraînait ensemble. Voilà, donc, mais quand on était ensuite en face à face dans les tournois, c'était en face à face avec une personne, selon la spécialité qu'on avait choisie. Il y en avait qui avaient du tir à l'arc, il y en avait qui avaient une espèce de duel, en quelque sorte. Ce qui est bien, c'est que dans les tournois, tu choisis, en fait, soit tu vas faire un match, et tu vas faire ton action, et tu vas avoir ta carte qui te guide, en fait, dans ce qui va se passer avec une problématique que tu choisis parmi les cartes disponibles. Les cartes affichées. Et tu as aussi un moment narratif dans le match, un petit moment narratif, une petite scène que tu peux faire, soit sous forme de vignette, soit vraiment sous forme de scène rapide, où tu vas interagir soit avec tes rivaux, soit avec tes coéquipiers, soit tout s'entremêle aussi à ces moments-là. Donc on joue tout seul, mais en équipe quand même. Voilà.
Et non, en fait, parce que dans ma tête, j'avais l'idée que peut-être si on jouait solo, on n'était justement pas en équipe et peut-être à un moment donné, les personnages allaient s'affronter, tu vois.
Oui, non, bon, ça n'arrive pas. C'est vrai que dans la réalité, voilà. ça serait sûrement le cas. Enfin, mais là, ça n'arrive pas, en fait, parce qu'on affronte vraiment une autre équipe. Voilà. Mais on joue quand même un match
solo. Ça fait un peu à la Cobra Kai, la série qui a repris Karate Kid, où en fait... C'est un sport individuel, mais qui se fait par équipe. On est dans notre équipe et on affronte une autre équipe, mais c'est chacun un contre un face à quelqu'un, quoi.
Voilà, bah ouais, c'est un peu comme ça. Bah, comme, je sais pas, même quand tu fais du tennis, bien sûr, t'as ton entraîneur, machin, mais imaginons, par exemple, tu vas aux Jeux Olympiques, bah, t'es dans une équipe quand même. Donc, ouais, c'est un peu le même principe. Ouais.
Et je me demandais d'ailleurs là-dessus, pour pousser un petit peu, donc on a vu, ok, sport collectif, ça marche. Sport individuel où on affronte quelqu'un, ça marche. Et maintenant, les sports où on affronte personne en particulier. Par exemple, est-ce qu'on pourrait jouer un tournoi de tir à l'arc? Est-ce qu'on pourrait jouer une compétition de saut en hauteur, par exemple? Ou voilà, il n'y a pas d'affrontement un contre un ou quoi que ce soit, enfin, ça va être la personne qui met le plus de points sur sa cible, la personne qui saute le plus haut du concours. Est-ce que ça fonctionnerait encore ou est-ce qu'il faudrait un autre type de jeu pour ça?
C'est une excellente question. J'en ai pas vu passer, mais peut-être que dans des jeux solo, peut-être.
Oui, je pense. Moi aussi, je pensais à ça. Ouais.
Ouais, alors. J'ai pas lu Fight with Spirit, mais clairement, la façon dont tu me l'as présenté, les enjeux qui sont en fait généralement hors du sport, c'est-à-dire c'est la pression que t'as à côté, quelqu'un que tu vois dans les tribunes, la relation que t'as avec ton adversaire. Moi, je vois totalement, je connais pas le jeu, hein, mais dans ma tête, je vois très bien un concours une fiction où on raconte du concours de tir à l'arc, où justement il y a cette pression, il y a cette tension, le silence dans les tribunes, tu vois quelqu'un, tu peux raconter ça. Je vois très 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 bien ça se dérouler avec un jeu de ce type-là. Quoi.
Ouais, tout à fait, pour les sensations, complètement. Alors là, c'est sûr que Fight with Spirit, ça permet complètement ça. Mais par contre, se concentrer sur la trajectoire personnelle d'un personnage, non, ça serait pas possible. Parce que vraiment, Fight with Spirit, c'est vraiment... c'est l'équipe, en fait. On part de l'équipe. Mmh. Tout part de l'équipe. Donc, et des interactions entre les gens de l'équipe, etc. Donc, je pensais plutôt que Mathieu B, en fait, faudrait presque écrire un jeu solo pour imaginer ce genre de trajectoire personnelle. Mais Fight with Spirit, là, vraiment, il y a forcément des interactions et vraiment tout part de l'équipe. On choisit une équipe, on est dans l'équipe, on se positionne par rapport à l'équipe, on a des liens dans l'équipe, on est contre d'autres équipes. Donc c'est vraiment, tout est ouais. Pas mal basé là-dessus. Quoi.
Et alors, je pousse le truc encore plus loin. Est-ce qu'il y aurait des jeux de rôle pour jouer des histoires de sport où on affronte personne, même pas à travers des règles. Je pense par exemple à l'alpinisme. On a du mal à dire que l'alpinisme c'est pas un sport. Il y a des records, il y a ce genre de choses là. Il y a même des équipes. Enfin, on monte en équipe et tout ça, mais il n'y a pas d'équipe adverse. Enfin, ou alors l'équipe adverse, c'est la montagne, quoi. Est-ce que vous voyez des jeux qui pourraient coller à ça?
En fait, je réfléchis. Je pensais à ça parce qu'en fait, justement, Fight with Spirit, comme je disais, propose une émulation des mangas et des animés de sport. Et en fait, je pense à un autre de mes jeux que j'adore, que j'ai déjà présenté d'ailleurs sur Radio Rolly, qui s'appelle Reimagined. Et en fait,
fois que j'entends parler de ce jeu.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce jeu est-il aussi génial, Macalis? Parlons-en pendant une heure.
Oui, bonne idée. J'en ai pas assez parlé. Mais en tout cas, donc Reimagine qui permet d'émuler en quelque sorte de la fanfiction. Donc ça pourrait tout à fait être possible de prendre Reimagine et de se dire justement en particulier dans j'ai joué dans l'univers des montagnes hallucinées. Lovecraft avec un ami à Reimagine. Bon, du coup, on aurait pu faire de l'alpinisme. On n'en a pas fait, mais je veux dire, c'était une possibilité en vrai. Et mettons, si on se concentrait sur un ou deux personnages et leur trajectoire parallèle et qui ne serait pas en équipe, on pourrait tout à fait faire ça dans. On pourrait tout à fait, oui, faire ça dans Reimagine. Voilà.
Il y a des jeux de rôle solo qui parlent de. Donc des personnages solitaires qui sont confrontés aux éléments, qui vont affronter des choses, des conditions dures, qui vont devoir se dépasser au bout d'eux-mêmes. Mais c'est pas forcément centré directement sur un sport. Et puis alors, j'ai pas du tout en tête, après l'accident, quand je parle de ça. mon cher Mathieu, il faudrait faire une recherche un peu plus approfondie que ce que j'ai fait pour préparer notre émission à ce propos. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, on parlait de sport en solo et on parlait beaucoup de catch et moins de boxe. Il y a quand même, dans mes recherches, j'ai trouvé 3x3 minutes décisives, un jeu de Kellren qui est encore un jeu Descended from the Queen, donc adapté de Pour la Reine, dans lequel on va suivre un match de boxe, mais en fait on va raconter les tranches de vie des deux boxeurs qui sont présents sur le ring.
Parce que c'est ce qui est intéressant en fiction.
Et oui.
Quand on regarde un Rocky, oui, les scènes sur le ring sont intéressantes, mais s'il n'y avait que les scènes sur le ring, le film n'aurait pas fonctionné. Le film fonctionne parce que le personnage de Rocky est intéressant, parce que ce qui lui arrive en dehors du ring est intéressant. Et que c'est ça qui amène en fait à ce qu'il monte sur le ring et que ce qu'il vit sur le ring est important, parce qu'on a été impliqué émotionnellement par le personnage. En fait.
Ouais, et la même chose sur ce film d'animation génial qui s'appelle The Last Slam Dunk, que j'ai déjà cité un peu plus haut, qui est un film sur le basket, et où le film commence au coup d'envoi et se termine avec le dernier coup de sifflet. Par contre, on a la vie entière d'un personnage qui défile sur le temps, oui, de ce match, avec des flashbacks, avec les problèmes, avec... son frère qui est mort trop tôt et qu'il essaye de remplacer, la relation avec sa mère, la relation avec telle ou telle personne dans le public, enfin, et bien sûr avec les coéquipiers.
Bref, oui, c'est exceptionnel cet animé, ouais. Et c'est la première fois que je vois un match de basket qui dure 2 heures, quoi.
Et ben tu vois, je traversais le salon au moment où mes enfants commençaient à le regarder. Et j'ai pas pu sortir du salon. Voilà.
Je comprends tout à fait. Dans les sports qu'on n'a pas encore abordés, sachez qu'il y a également des jeux de golf avec le mythique Golf Borg adapté de Mork Borg.
Il existe aussi un Trophy Gold pour jouer du golf dans Trophy, mais voilà, on joue pas forcément avec des balles.
J'imagine. Et alors, il y a un sport qu'on n'a pas du tout cité jusqu'à présent, c'est les échecs, qui est considéré comme un sport.
Oui.
Et il y a une suite d'excellents jeux de rôle. Ouais, tout à fait, ouais. à une suite d'excellents jeux de rôle que je n'ai pas joué malheureusement, mais qui me brûle les doigts depuis des années, qui s'appelle Fake Chess, dans lequel on va jouer tout le drama et toutes les personnalités, les prises de gueule entre des célébrités, des maîtres des échecs, et qui se joue avec un jeu d'échecs complet, mais qui ne nécessite pas du tout de savoir jouer aux échecs, et dans lequel on ne va pas du tout jouer aux échecs, même si effectivement la partie se termine avec la prise du roi, mais on ne va pas faire des déplacements de pièces, hein, pour faire simple. Quoi. C'est
qui ont déplacé des pièces, mais j'y ai c'est joué, ça. J'ai fait une partie, et on ne déplace pas les pièces, mais alors on déplace les pièces, mais on ne respecte totalement pas les règles des échecs.
C'est ça. Donc tu as des listes à cocher et en fait tu déplaces tes pièces en fonction de ça, ouais c'est ça. J'ai vu qu'il y avait des suppléments avec des listes de personnalités de maîtres, de grands maîtres incarnés et tout, ça a l'air assez dément.
Oui, on joue en fait des archétypes. Clairement, l'auteur il a dû aller sur TV Tropes et regarder la page sur les échecs, prendre tous les films sur les échecs et prendre les archétypes de ces personnages. On a le grand maître, en effet, mais on a aussi le jeune génie, on a l'intelligence artificielle, on a le gars qui joue dans la rue à New York, on a la célébrité qui n'a pas dormi depuis 24 heures, qui est en lunettes de soleil et qui n'arrête pas d'être dérangé par son impresario. Et chacun a une sorte de petit livret dans lequel en fait, on a des réactions, mais des réactions qu'on verrait dans un film. Par exemple, la personne qui se lève et qui commence à s'insulter elle-même parce qu'elle joue n'importe comment et qui se calme comme ça en s'énervant sur elle-même. Et ça fait partie de nos actions de livret. Et quand on fait ça, on a le droit d'avoir un petit bonus sur notre prochain jet qui va être pas un jet, mais un déplacement de pièces qu'on peut faire un peu plus loin. C'est presque un jeu à jouer en public parce que voilà, deux joueurs qui ont décidé de bien jouer le rôle et qui se mettraient sur une petite scène de théâtre pour faire une partie de Fake Chess, je pense que ça serait très plaisant à voir pour un public, puisque les règles n'interviendraient pas, c'est vraiment juste du spectacle de personnages qui très connus d'archétypes, qui se lâchent.
Excellent. J'avais une question à te poser, Mathieu, et toi, c'est quoi ton rapport avec le sport et le sport dans le jeu de rôle?
Moi, je suis un peu à l'opposé de Gulix, je pense, dans le sens où c'est très très rare que je regarde du sport. Globalement, j'aime pas ça. Enfin, ça m'arrive hein, dans des grandes occasions, on va dire voilà, quand il y a tout le village de vacances qui regarde la finale de la Coupe du Monde du foot. Bon, bah de toute façon, il y a personne avec qui parler, donc autant être avec les autres, si tu veux. Mais je le ferai pas de moi-même. Et effectivement, je préfère pratiquer sans être un grand sportif moi-même. Et d'ailleurs, pas trop en équipe, plutôt des sports individuels. Néanmoins, je trouve que les fictions qui ont un rapport avec le sport, plus même que de regarder vraiment le sport à la télé, mais une fois que ça a été mis en scène, scénarisé, qu'on a accès à l'intériorité des personnages, etc., etc., c'est quelque chose qui assez régulièrement me plaît. C'est pas forcément quelque chose que je vais chercher, mais comme je disais, par exemple, de la Slam Dunk, je suis tombé dessus, pourtant j'étais au tiers du film, et j'ai été resté scotché jusqu'au bout. Donc je vois un énorme potentiel là-dedans, et encore une fois, hein, sans avoir été spécialement fan de catch ou quoi que ce soit, j'ai adoré les parties de World Wide Wrestling. J'ai adoré écouter des parties de Glorieuse. D'ailleurs, il y en a une très bonne qui est sur la chaîne d'Alceste avec... Mais il y a au moins Sandrone et Guylaine dessus. Et qui est juste époustouflante de bout en bout. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait mes pleurer de rire en plein milieu, qui était d'ailleurs plutôt une scène drama plutôt qu'une scène de combat. Bref, tout ça pour dire, oui... Je suis assez fan des histoires qu'engendre le sport plus que du sport lui-même. Voilà.
Mais je vais te suivre là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai pratiqué beaucoup le foot et je regarde très peu de foot à la télé parce que ça m'ennuie. Je suis pas investi, en fait, j'arrive pas à être investi là-dedans. Je vais être investi, comme je disais, dans une étape du Tour de France que j'entends à la radio parce que ça me procure des émotions, ça me rappelle mon enfance, ce genre de choses. Je vais être investi sur une simple après-midi d'athlétisme pendant les Jeux Olympiques parce qu'il y a une histoire autour de ces athlètes, des fois. On les voit se dépasser, ce sont des athlètes qui n'ont pas forcément les moyens que peuvent avoir d'autres et ça se sent, en fait. Après, je pense qu'il y a un bon travail de certains commentateurs aussi. Il y a des commentateurs que je sais qui vont me happer, peu importe le sport, parce qu'ils ont une façon de raconter, parce que ce sont des narrateurs, en fait. Ils arrivent, à sans rentrer trop dans le mélo, à raconter l'histoire de ces athlètes. Et c'est ça qui va me toucher par rapport au sport réel, entre guillemets, hein, celui que je peux vivre. Après, j'aime bien aussi aller voir des fois des compétitions sportives, même si ça se fait de plus en plus rare. Parce que j'arrive pas à trouver ce que je cherche forcément autour, et j'ai pas trop le temps. Et puis en fiction sportive, après, bah c'est ça, c'est peu importe le sport, c'est un vecteur, en fait, hein, qui arrive pour moi à me toucher, à raconter des histoires. J'ai déjà mentionné plusieurs auparavant, mais voilà, c'est quand un film parle de sport, généralement il arrive à m'accrocher et je vais me dire qu'est-ce qu'il parle, de quoi il parle en plus du sport. Et c'est là où je vais me dire oui, ça va m'intéresser, je vais le tenter. Le dernier en date, c'était Challengers qui parle de tennis, mais en fait parle d'un triangle amoureux plus qu'autre chose, et qui est un film que je trouve exceptionnel, et qui en fait arrive à... Il n'aurait pas pu être sur un autre sport, là par contre. Ça parle de ce sport qui est un sport de duel et un sport individuel à la fois. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Et je pense que cette notion de duel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en jeu de rôle, ou c'est le jeu de rôle en duo, et je pense que c'est... Alors je sais que Mathieu a référencé plein de jeux en duo, mais juste jouer le duel... Si, tu avais fait un jeu de samouraï en duel, Mathieu, je crois.
Oui, c'était un jeu inspiré de Pour l'Arène aussi, ouais, qui était une adaptation d'un autre jeu un peu plus compliqué, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les jeux duo, sont des sacrés moments. Hein.
Ouais.
Si vous n'avez jamais essayé, je recommande.
Après, il y a aussi la possibilité qui est ouverte, par exemple, dans des jeux enflammés sur Firebrands, d'avoir un jeu de duel au milieu d'un autre, et donc ça pourrait être d'ailleurs un duel non martial, enfin ça pourrait être un duel sur un court de tennis ou avec du foot robot géant, enfin peu importe, hein, mais
je prends la balle au bon pour signaler que en vous écoutant tout à l'heure, je regardais un petit peu sur internet et je trouve que j'en ai traduit un.
On y a joué ensemble, Mathieu.
Mais oui, c'est fou ça, mais la mémoire, c'est quelque chose de terrible avec l'âge, hein, quand même. Je ne l'ai pas référencé, ce jeu, tu vois. Ça s'appelle Superstars Racing Icons, et qui est un jeu de Britt A. Willis et de Pete Volk qui parle justement de ça. Et oui, effectivement, il y a des duels. C'est un jeu, donc Firebrands, à la base, dérivé de Firebrands, où tu retrouves les mini-jeux et où tu vas jouer des compétiteurs sur des sports mécaniques réels ou fictifs. Ouais.
Et en parlant de mémoire, il y a aussi quelque chose que j'avais oublié et que j'ai retrouvé entre-temps, c'est quand j'évoquais l'alpinisme, par exemple, je pense qu'une bonne piste pour aller regarder ce qu'on peut faire, c'est le jeu vertical de Melville. Alors, il y a un contexte, hein, qui est autre chose que l'alpinisme sportif, mais j'ai quand même l'impression qu'on y retrouve une partie de cette mais impression, oui, d'être une équipe qui se bat contre les éléments, quoi.
C'est ça, on a une cordée de femmes qui gravissent un mur. Il me semble que c'était sans doute cette histoire de mur, ça me fait penser à une game jam qui avait dû être organisée pendant la première cyberconf ou la deuxième cyberconf peut-être, et peut-être que c'était parti de là. C'est terrible, les jeunes.
Bon, oui,
ne vieillissez pas, les jeunes.
C'était la première cyberconf.
Merci, Michaelis.
Et après, de façon générale, moi, j'ai l'impression que il y a déjà beaucoup de jeux de rôle de sport, mais que un peu un message qu'on peut dire, c'est s'il y a une fiction de sport qui vous a plu, elle utilise sûrement des ressorts qui sont pas communs à tous les sports, à toutes les fictions de sport, et qu'en se penchant un peu dessus, il y a moyen d'en tirer des mécaniques de jeu et de faire jouer des parties qui ressemblent à la fiction ou les fictions en question, plutôt qu'à un truc de sport générique. C'est plus un message pour les designers qui nous écoutent.
Oui, c'est ce qui me semblait.
Même, je pense que pour des jeunes game designers, des gens qui veulent se lancer dans le game design, la fiction de sport permet de... Elle va lancer des émotions, elle va lancer des arcs, des thèmes très forts. Et si on arrive à les identifier, en fait, on peut trouver des jeux à partir desquels, par exemple, démarrer un jeu force de drama, un cadre pour Fiasco, ça peut être un jeu Firebrands ou que sais-je.
Réimagine.
Il y a plein de systèmes. Un Réimagine, par exemple, et même un cadre pour un jeu connu. Et de pas forcément trop se casser la tête à comment on peut simuler le sport. Je pense que si on veut simuler vraiment une compétition de skate, un duel de tennis ou un match de foot, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la compétition, le fait j'ai plus de compétences que toi ou j'ai été plus tactique, on peut partir sur un jeu de plateau, on peut partir sur un jeu de stratégie, je pense que c'est plus adapté. Si on veut parler des sportifs, de ce qui se passe autour, ou même des supporters, par exemple, on pourrait faire un jeu où on ne joue que les supporters d'un club, par exemple. Je suis sûr que ça existe si on cherche bien.
J'ai même entendu parler récemment d'un jeu, enfin d'un projet de jeu où on ne jouerait que des commentateurs. Et ça pourrait voilà. Être très très drôle. Enfin, c'est RL, si tu nous écoutes, ton jeu est génial, sors-le.
Exactement, on joue des commentateurs de donjonnade. Exactement.
Voilà. Ah oui, et le rôdeur maintenant qui commence à atteindre la quarantaine, bien tassé, il est un peu presbyte et du coup il a du mal à accrocher les serrures, c'est bien connu qu'à cet âge-là, il faut prendre sa retraite. Et...
Moi je veux absolument les interviews des monstres qui se sont fait taper dessus après la baston, tu sais, en fait, tout ça n'est qu'un spectacle, c'est comme le catch, et en fait ils sont pas morts et on interroge le troll à deux têtes qui s'est fait avoir à son propre jeu et qui s'est fait dépasser par l'équipe de héros.
Mais reprenons Gulik, excuse-moi.
Je ne sais même plus où j'en étais. Mais si, pour les game designers, c'est ça, c'est d'identifier les thèmes qui vous ont plu dans une fiction, en fait. Voilà, est-ce que c'est une histoire de deux personnes qui s'affrontent et peut-être, de mémoire, j'avais traduit un jeu qui s'appelle Single Moment, où on joue deux samouraïs et en fait, on va vivre sept moments, je crois, de leur existence. Et à chaque fois, c'est une rencontre qu'ils ont. Alors, c'est pas tout le temps un duel, mais souvent c'est un duel. Mais ça peut être un duel verbal, ça peut être un duel de compétences plus qu'un duel au sabre. Par contre, ça se termine par un duel au sabre. Mais le jeu proposait plein de variantes où il y avait du catch, il y avait du duel de chevalier type arthurien, mais on pouvait aussi partir sur des duels d'échecs. Il y avait tout le temps cette notion de duel, et c'était ça qui était important dans le jeu. C'est-à-dire qu'on joue deux personnages qui ont un duel, mais qui n'est pas un duel unique, c'est un duel qui se fait sur le temps long avec plein de rencontres avant. Donc, si c'est ça le thème, bah, peut-être regarder sur ce genre de jeu. Et après, il y a, voilà, si on est plus sur la camaraderie, sur l'équipe, sur la force de l'équipe, sur le drama, il y a des jeux qui s'en inspirent. Et je pense que c'est vraiment ça, de trouver qu'est-ce qui nous plaît dans la fiction si on imagine un autre sport, en fait.
Oui, après, c'est vrai que ça peut être aussi assez jouissif. Je vois Fights with Spirit, ils ont vraiment une mécanique de jeu pour essayer de recréer des sensations vraiment lors d'un tournoi, et enfin c'est assez jouissif, donc j'avoue que j'aime bien aussi l'idée qu'il y a peut-être des jeux qui vont apparaître avec des nouvelles mécaniques qui pourront nous donner des sensations peut-être plus liées à un sport ou autre chose, même si évidemment pour moi les émotions et le drama sont quand même au centre de tout, et c'est ça qui me ferait jouer un jeu de sport de toute façon.
Et j'ai une interrogation là sur Fight with Spirit. Les mécaniques changent si je joue du volley ou si je joue du hockey?
Non, parce que du coup, tu as des cartes avec... Enfin, les cartes sont assez précises et en même temps assez générales pour vraiment s'adapter à tout et que tu puisses créer des moments aussi bien... Donc, tu m'as dit voler et le basket, c'est ça?
Mais ouais, voler, basket ou hockey ou griffon,
Voilà, exactement. Quoi. N'importe quel sport. Tu vois, on a joué. Moi, j'ai joué à hockey et j'ai joué avec des griffons. Et en fait, dans les deux, bah, j'ai eu l'impression dans ma première campagne d'avoir des sensations vraiment liées au hockey sur glace, et dans ma deuxième campagne d'avoir des sensations vraiment liées à du vol sur griffon. si ça veut dire quelque chose.
Mais c'était pas le jeu qui, par exemple, un système pour simuler un coup de crosse de hockey qui t'amenait ça, quoi. C'était vraiment parce que dans la narration, vous étiez dans une compétition. Et je pense que ça doit être vraiment cool à jouer si le jeu, il fait la part belle. Juste, j'ai réussi, en fait, je réussis à mettre mon équipe en avantage ou au contraire, mon action a échoué, donc mon équipe est en désavantage, quoi.
Ben, c'est ça, exactement.
Sans forcément rentrer dans le détail, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça se concentre sur l'action et après, c'est toi qui décris l'action. Donc,
Et puis, on donnait des conseils aux créateurs de jeux. Pour vous, joueurs et joueuses qui nous écoutez, essayez des jeux de sport parce que vraiment, en fait, vous allez voir qu'il y a des dynamiques à la table, même entre nous, en fait, qui nous font vivre des choses vraiment différentes. Moi, j'ai eu une grosse expérience avec un sport collectif en jeu de rôle qui est le volley. Et vraiment, j'y ai vécu, même si on jouait des jeunes lycéens avec leurs problèmes, etc., sur des choses à côté. Le côté équipe qui reproduit un petit peu la dynamique d'une équipe classique qu'on trouve en jeu de rôle avec ces packs de héros qui vont mener une enquête, qui vont traverser un donjon, etc. Les dynamiques d'équipe sont vraiment super, super intéressantes dans tout ce que ça va apporter en termes de construction de personnages, en termes d'émotions vécues par les personnages. Moi, ça m'a vraiment retourné la tête en tant que joueur. Ce type d'expérience a vraiment été un fait marquant dans mon histoire dans ma petite histoire de joueur de jeu de rôle. C'était vraiment très, très chouette.
Mais je pense que c'est un conseil qu'on peut donner de façon générale. Hein. Même si vous n'aimez pas pratiquer le sport, même si vous n'aimez pas regarder le sport, essayez quand même de jouer à un jeu de rôle de sport parce que ouais, il y a vraiment quelque chose à aller regarder. Je suis sûr que on a actuellement des jeux qui commencent à être vraiment bien pour pouvoir jouer du sport en jeu de rôle. Et il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent, à mon avis, parce que c'est une mine assez inépuisable d'histoire. Et comme j'ai tué tout le monde, je veux dire que c'est le mot de la fin.
On va faire une jolie conclusion. Moi, je trouve que c'est une très jolie conclusion.
Ouais, c'est une très belle conclusion.
Bah, moi aussi.
Eh bah, très bien. Eh bah, on est tous d'accord. On a tous passé notre tour. Donc le mini-jeu est terminé, on peut aller se coucher. Et bah du coup, merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir parlé de sport, de nous avoir fait découvrir tout ce qu'on est capable de faire avec des jeux de rôle de sport. Et on espère qu'on vous a donné, à vous, auditeurs et auditrices, envie et bah, de tester tout ça, d'essayer d'autres jeux et de découvrir toutes les histoires potentielles que l'on peut avoir grâce au sport dans le jeu de rôle. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, des bisous et merci pour l'invitation.
Sauf si vous avez maintenant un truc que vous avez oublié de dire avant et qu'il faut que je recolle quelque part.
Alors moi, j'ai un jeu Belonging Inside Belonging, dont je peux vous parler, qui s'appelle Volley Boys, et je peux vous en parler pendant 2 heures, si vous
voulez. Très bien. Bon, bah, on te laisse avec les robots.
Laisse-moi avec Craig.